nous recevons Elikia Mbokolo. Elikia Mbokolo est née en 1944 à Kinshasa. Il est ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et de l'école pratique des hautes études, 6e section. Il est agrégé d'histoire et docteur en histoire. Actuellement, il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et il est également producteur à RFI d'une émission qui s'intitule « Mémoire d'un continent », qui est une émission hebdomadaire d'histoire africaine. Il est spécialiste précisément d'histoire africaine sur le plan intellectuel, politique et social notamment. Il est membre de l'Institut français d'Afrique du Sud, du Conseil scientifique de l'Université de la paix des Nations Unies, du Conseil d'administration de Radio France Internationale. Il est président de DEFI, qui est un groupe de réflexion des intellectuels congolais en France, et président d'honneur d'Espace Afrique, qui est une association culturelle des Afro-Réunionnais. Outre de nombreux articles qu'il a écrits dans des revues spécialisées, il est également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je ne les citerai pas tous, mais certains. Donc tout d'abord, « Noir et blanc en Afrique équatoriale 1820-1874 », qui est paru aux éditions de l'EHESS en 1981. Il a également publié « L'Afrique au XXe siècle, le continent convoité », qui est paru au Point Seuil Histoire 1985. Il a fait paraître également « Au cœur de l'ethnie, ethnicité, tribalisme et État en Afrique » avec Jean-Loup Anselme, qui est paru aux éditions de La Découverte en 1985 et qui a été réédité en 1999, toujours à La Découverte. Et il a fait paraître « L'Afrique noire, histoire et civilisation, 19e-20e siècle », qui est en 2 volumes et qui est paru chez Atier Opelf en 1993. Elikia Mbokolo, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat d'une vingtaine de minutes pourra suivre. Je vous remercie.
Merci. C'est donc en historien que je vais essayer de réfléchir avec vous à ces trois notions que l'UTLS m'a proposé de débrouiller. Il s'agit plus de débrouiller que de répondre de manière définitive à des questions qui, comme vous le verrez, sont d'une très grande complexité. Je crois que ma situation n'est pas unique à moi, elle est partagée certainement par beaucoup d'historiens. Je constate en effet que cette fin de siècle, depuis 2 ou 3 ans environ, est bien chargé, puisque nous sommes sommés tantôt de dire, à partir des tendances lourdes du siècle passé, ce que pourra être, ce que devrait être le siècle à venir. C'est ce à quoi mon collègue et ami Pierre Kipré a consacré sa conférence de mardi dernier. Tantôt, au contraire, on nous demande, tournant le dos à l'avenir qui est si pressant, de dire ce qu'a été le passé. Un passé que nous lisons finalement en ayant quand même le dos adossé à ce mur très incertain d'un futur qui nous concerne tous. Ces deux démarches, dont l'une relèverait plutôt de la prospective, avec ses incertitudes et ses interrogations, et l'autre de l'histoire, avec les certitudes qui assurent sa marche, ne sont pas si éloignées qu'on pourrait le croire. Dès lors que on prend sur soi de renoncer, comme j'ai décidé de le faire aujourd'hui, à l'un des modes d'exposition la plus chère aux historiens, qui est la narration. Parce que la colonisation, la décolonisation, le postcolonialisme, ce sont des moments forts de l'histoire du continent africain, avec tout ce qu'il faut comme ingrédients pour alimenter un drame, des hommes, des idées, des forces collectives, des morts, hélas, des victoires, des joies, des pleurs, etc. Je vais donc faire autre chose, donc toujours habillé du tablier de l'historien, essayer donc de vous faire entrer dans ma cuisine, dans mon laboratoire, et de voir avec vous comment on conçoit les plats et comment on les fait. C'est-à-dire comment on construit les objets et comment on mélange les ingrédients avec souvent ce que ne savent pas ceux qui sont en dehors du métier, les interrogations, la perplexité, la sueur froide qui quelquefois frappe le chercheur et l'interroge sur le bien fondé de sa démarche et de ses hypothèses. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de réfléchir un peu au temps propre de la colonisation, c'est-à-dire à ce temps particulier qu'on ne saurait, à mon avis, en aucune manière identifier simplement à la plus grande partie du siècle. Le temps propre de la colonisation, démarche donc qui va nous conduire à essayer de voir les choses à distance, en privilégiant l'ensemble plutôt que les détails, et je dirais les durées signifiantes, les durées qui sont à cette échelle-là, à l'échelle du continent, à l'échelle de l'ensemble, plutôt que à l'échelle qui nous est plus chère et plus proche, à l'échelle des États colonisateurs, des États colonisés, ou bien sûr de nos propres expériences individuelles. Mais le détail, il faut quand même en dire un mot. Il faut en dire un mot d'abord du point de vue de l'Afrique, où il est clair que la colonisation a été plus ou moins longue. Mais cette longueur n'est pas simplement un problème de technicité historienne. Parler de cette longueur, c'est aussi s'interroger sur les effets différentiels de ces longueurs variables par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui et peut-être aussi par rapport à l'Afrique de demain. Il y a des cas où, vous le savez, la colonisation a été longue, très longue. L'Angola, le Mozambique, l'Afrique du Sud, pour se tenir seulement à ces pays-là. Une colonisation qui, en fait, est antérieure à ce que Paul Leroy Beaulieu appelle la colonisation moderne, ou à ce que d'autres appellent Hobson, Lénine après lui, la colonisation impérialiste. Mais cette colonisation ancienne, qui est donc assez largement hors de notre propos, est importante en ce sens que, par elle, se trouve fixé un système, des règles juridiques, des normes sociales, des comportements qui vont se prolonger dans la colonisation moderne et peut-être même au-delà de la colonisation moderne pour marquer notre temps et nos interrogations. Je pense en particulier à des questions comme le racisme institutionnel, dont l'Afrique du Sud a été le terreau bien avant le début de la colonisation moderne. Je pense aussi à cette question, qui est une question d'aujourd'hui, à la question très controversée du métissage. À l'autre bout, nous avons des colonisations courtes, trop courtes peut-être pour mériter le nom de colonisation, mais je pense quand même qu'on doit les intégrer à notre propos parce que, malgré leur brièveté, ces colonisations ont eu un impact suffisamment fort pour constituer une cassure intellectuelle, politique, psychologique, dans l'histoire du continent africain. Vous suivez avec moi, bien sûr, à travers ces propos, l'exemple tout à fait particulier de l'Éthiopie et de l'aventure fasciste dans ce pays. Il y a enfin, autre particularité du continent, le cas, il y en a un, de colonisation sans colonisation, au sens juridique de ce mot, c'est le Libéria, bien sûr, dont les intéressés, parce qu'ils se considèrent comme ayant quelque chose à voir avec la colonisation, vont jouer un rôle qui est important, peut-être central, dans la formulation et l'énonciation du discours émancipateur qui aboutira précisément à la décolonisation. En même temps que ces intéressés vont ouvrir pour les Africains des itinéraires, des profils d'excellence dans lesquels beaucoup d'entre eux vont s'engouffrer. Je pense bien sûr à des gens comme Edward Blyden, à Nnamdi Azikiwe ou à Kwame Nkrumah. Toujours dans le détail, on pourrait aussi regarder les choses du côté de l'Europe, de la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, donc tous ces pays qui ont colonisé et où la colonisation comme système et le colonialisme comme discours, comme idéologie, comme attitude, comme relation à l'Afrique et aux Africains, s'inscrivent bien sûr dans une durée relativement longue qui déborde le temps colonial, qui le déborde certainement en amont et qui peut-être, je dirais, pour le malheur de l'Afrique et des Africains, le déborde également en aval. Les économistes nous ont appris, de manière, je crois, convaincante, que, vu d'Europe, la colonisation a été un stade. Le concept est certes de Lénine, mais il est aussi de Kwame Nkrumah. La colonisation, donc, a été un stade dans le développement du capitalisme moderne dont l'Europe a été le berceau. Ça, c'est acquis, je crois, il n'y a pas trop à y revenir. Pour ce qui est, au contraire, du colonialisme, donc de l'idéologie, du discours qui accompagne ce processus, cette idéologie, on la voit se constituer, à partir de la fin du XVIIIe siècle, dans un processus qui est à la fois de sédimentation, d'accumulation, d'accélération. Et on pourrait y repérer beaucoup de choses. Un humanisme civilisateur, qui se prétend tel, du moins, et qui puise successivement accumulativement, selon les gens, selon les pays, selon les périodes, dans le discours des Lumières, dans le christianisme tel qu'il a été revigoré au début du XIXe siècle, dans la croyance un peu naïve aux bienfaits universels supposés attribués à l'économie industrielle naissante, ou encore dans l'adhésion romantique et la foi techniciste au progrès. On y verrait aussi, bien sûr, un hégémonisme tranquille, assuré de sa bonne foi et de son bien fondé, dont le principal levain a été cette espèce de darwinisme social largement diffusé par les explorateurs, mais aussi ce racisme tranquille qui va prétendre justifier la colonisation et la légitimer par le droit ou le devoir des races supérieures à l'égard des races inférieures. Donc, passé ces détails, je dirais que nous sommes accoutumés, probablement à tort, à nous représenter la colonisation comme quelque chose de long, qu'on ferait commencer donc à ces dates presque incontournables qui nous conduisent au milieu des années 1880, à la conférence de Berlin en particulier, 84-85, et qui se poursuivraient jusqu'aux années 1960. Certains d'ailleurs proposent d'aller un peu au-delà des années 60, jusqu'en 1990, disons précisément jusqu'au 11 février 1990, le jour où la libération de Nelson Mandela venait à la fois politiquement, symboliquement et de manière spectaculaire mettre un terme à l'une des colonisations les plus singulières et les plus atroces que le continent africain ait connues. J'ai moi-même eu à écrire et à reprendre à mon compte cette vision longue de la colonisation. Donc je suis à l'aise pour me distancier par rapport à cette vision que je crois on peut interroger aujourd'hui. Je crois que la première chose qui a lieu de dire, c'est que cette approche est trop juridique. Elle est trop juridique dans la mesure où les bornes que l'on retient correspondent en effet à des moments importants du point de vue du droit. D'une part, le moment de la prise de possession, mais on voit bien que l'on prenne la conférence de Berlin ou les différents moments diplomatiques au cours desquels les grandes puissances colonisatrices se sont partagées des morceaux du continent, on voit bien qu'il s'agit d'une prise de possession formelle plutôt que d'une prise de possession réelle. Prise de possession formelle en ce sens que c'est le moment où les puissances entre elles reconnaissent que tel territoire relève désormais de la souveraineté de tel autre, même si sur le terrain, c'est loin d'être le cas. Et l'autre terme que l'on prend, c'est le moment du transfert du pouvoir, c'est-à-dire le moment où la puissance de tutelle passe au nouvel État, comme on disait, les instruments de la souveraineté et les symboles de la souveraineté, le moment aussi où la communauté internationale prend acte de ce transfert. Mais lorsque nous lisons de manière attentive les écrits des témoins, lorsque nous les entendons parler, et lorsque nous lisons aussi les écrits d'un certain nombre d'acteurs du côté des colonisateurs, On se rend compte que, par exemple, ce moment du transfert du pouvoir est un moment formel, puisque un certain nombre de ces hommes ont eu une conscience très claire de ce que la colonisation s'était terminée plus tôt que le moment du transfert du pouvoir. Pierre Reykmans, qui était l'un des grands gouverneurs coloniaux de la Belgique, donc un homme enraciné dans un système colonial dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'était pas progressiste, dès le milieu des années 40, Pierre Reykmans écrivait que, à son avis, et compte tenu des processus qu'il constatait à l'intérieur de la société congolaise, il dit donc ceci, « Les jours du colonialisme sont révolus ». Nous sommes en 1944-46. Je voudrais dire aussi que, prise à la lettre, prise au premier degré, cette approche donc en durée longue de la colonisation, me semble-t-il, donne lieu également à des instrumentalisations idéologiques qu'il faut avoir présentes à l'esprit et dont il y a lieu certainement à se défier et qu'il faudra un jour critiquer. Dans les pays colonisateurs, nous sommes plusieurs certainement à avoir entendu réfléchir sur cette longue colonisation, sur le thème « Voilà ce que font les rois nègres ». On a tant fait pour eux pendant 100 ans ou 80 ans, et puis on s'est retiré parce qu'il fallait bien partir. Nous nous sommes à peine retirés que, en moins d'un lustre, les voilà qui reviennent à leur barbarie. Donc une colonisation longue, bienfaisante, opposée à un temps qui est court, le temps pendant lequel, donc, cette espèce de croûte que la colonisation avait voulu imposer sur les Africains a sauté sous l'action néfaste des soi-disant rois nègres. Et puis d'autres, sur un mode différent, tiennent un autre discours, qui est encore d'aujourd'hui. Nous avons trop vécu ensemble, 100 ans, 80 ans, peut-être davantage. Nous avons trop vécu ensemble pour ne pas nous aimer. Nous avons trop vécu ensemble pour être seulement des amis. Nous sommes à coup sûr des frères. Nous avons un destin commun dans le passé comme dans l'avenir. Discours que vous entendez naturellement dans toutes les considérations plus ou moins scientifiques qui accompagnent la problématique de la francophonie ou de la lusophonie. D'ailleurs, dans un certain nombre de pays africains, ce discours est repris, puisque chez moi, par exemple, en RDC, les Belges sont appelés aujourd'hui les Noko, c'est-à-dire les oncles, et donc entretiennent avec leurs neveux ces relations ambiguës où il entre un peu d'amour, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie et une sorte de compétition permanente. Donc il y a là, je pense, par rapport à ces pays, non seulement une justification du néocolonialisme, mais il y a aussi une sorte de nettoyage intellectuel, une volonté de nettoyage intellectuel de ce que la colonisation a été effectivement sur le terrain pour lui substituer une image lénifiante et dorée de ce processus. Dans les ex-colonies elles-mêmes, je ne suis pas certain que cette vision du temps long de la colonisation n'est pas quelque chose à voir avec des formes d'instrumentalisation idéologique. En effet, le temps long de la colonisation, confronté au temps court de la décolonisation, contribue en effet à poser les pères de la nation en héros. Ce sont eux qui ont contribué à mettre un terme à un processus qui semblait interminable. Et ce sont donc ces héros qui vont capter à leur profit exclusif un mouvement qui a été beaucoup plus ample et qui a vu intervenir un nombre suffisamment important d'acteurs. Mon propos donc serait de vous présenter l'hypothèse d'un temps propre de la colonisation qui est une durée courte. J'entends par temps propre ce moment où la colonisation, débarrassée des résistances africaines, débarrassé aussi des oppositions, du scepticisme ou de l'indifférence des opinions publiques métropolitaines, ce temps pendant lequel la colonisation s'est trouvée en quelque sorte à son aise pour accomplir son œuvre. Ce temps est en effet un temps court. Jean Suré Canal, avec d'autres, m'a précédé dans cette voie que nous n'avons peut-être pas suffisamment sondée. Dans un livre pionnier qui date déjà de 1964, c'est beaucoup, c'est un grand âge pour un travail de recherche scientifique, il propose de délimiter quelque chose qu'il appelle l'ère coloniale et qu'il fait commencer en 1900 pour l'arrêter en 1945. Nous sommes déjà dans une durée qui est beaucoup plus courte que la durée 1880-1960. Alors, question, est-ce que 1900 est un bon commencement ? Oui, peut-être. Mais c'est un bon commencement, je dirais, seulement dans le cadre français et seulement au niveau des symboles et au niveau de tous ceux qui sont assez nombreux dans notre communauté, aux yeux de tous ceux pour qui l'action des États l'emporte en densité et en signification sur l'action des sociétés. De ce point de vue, oui, en effet, 1900 est un bon commencement. C'est l'année où, au Tchad, les troupes françaises venues de trois coins du continent mettent en un terme aux États et d'ailleurs à la vie, dans des conditions atroces, de Rabat. C'est l'année aussi où l'un de ces hommes d'État que tous les Africains aujourd'hui considèrent comme l'une des marques sur le chemin de notre histoire, c'est l'année où Samori Touré trouve la mort au Gabon. Mais je dirais qu'à l'échelle du continent, et si nous prenons le parti qui est défendable, de penser qu'en dehors de l'État, les sociétés, les individus, les groupes, les ethnies, les populations ont aussi une action à mener, on se rend bien compte que le temps des incertitudes va bien au-delà de 1900. Au-delà de 1900, nous sommes encore dans le temps de ces incessantes et coûteuses pacifications, qui est une autre manière de désigner les résistances. C'est le temps des insurrections, c'est le temps des révoltes, c'est le temps de tous ces prophètes qui annoncent aux Africains le caractère passager de la colonisation et le caractère en quelque sorte inéluctable du retour à la souveraineté. Je dirais que dans la plupart des territoires, si nous sortons du cadre français et francophone, ce temps des incertitudes, on doit certainement le prolonger jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en chicanant un peu, on pourrait dire, ce n'est pas tant 1914 ni 1919 que probablement autour de 1916-1917. Passons. On sait aussi que pendant cette période qui court après la mise à l'écart de ces mouvements insurrectionnels, on sait qu'à cette période, la propagande colonialiste a réussi la conquête des opinions publiques. Elle a réussi si bien la conquête des opinions publiques que s'il subsiste encore, après 1917-1920, s'il subsiste encore de l'anticolonialisme, c'est dans la majorité des cas pour condamner les abus de la colonisation plutôt que son principe. Est-ce qu'à l'autre bout, 1945 est une bonne date ? Peut-être oui, puisque en effet, autour de 1945, 44, 45, 46, on constate le retour à l'échelle du continent de toutes ces actions, de tout ce mouvement social, révolte, mutinerie, grève, dont certains sont devenus des moments fondateurs de la conscience de l'Afrique d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de Tiaroy, qu'il s'agisse des cheminots du Dakar au Niger, qu'il s'agisse encore de ces ouvriers et mutins qui, dans les pays miniers du Congo jusqu'en Afrique du Sud, vont secouer l'appareil pesant du système colonial. Mais je dirais que nous ne devons pas exclure la possibilité d'avancer un tout petit peu ce terminus. Je dirais de l'avancer peut-être d'une dizaine d'années, ce qui nous conduirait au milieu des années 30. Dieu sait si ce milieu des années 30 est chargé de faits. Il n'y a pas seulement la grande crise économique qui enlève à la colonisation cette espèce de morgue et d'assurance sur le fait qu'elle représentait le progrès. Il y a surtout, je dirais, un certain nombre de mouvements inattendus. La révolte de Kongo-Ouara en République centrafricaine d'aujourd'hui, à la fin des années 20, au début des années 30, représente une chose très singulière. Révolte du passé en apparence, puisque ce sont des paysans africains sans armes. Ils ont des manches de houx. Ce sont des paysans africains sans armes qui décident d'en finir avec le régime colonial. Mais c'est aussi un moment dans lequel des groupes ethniques entre lesquels on prétendait qu'il y avait une inimitié éternelle. C'est le moment où ces groupes se retrouvent ensemble dans quelque chose qui est probablement l'annonciation d'une nation. Ils se retrouvent ensemble derrière un prédicateur, un prophète, qui, comme par hasard, ne se réfère pas aux religions chrétiennes, ne se réfère pas non plus à des religions venues de l'extérieur, mais forge à partir des héritages du terroir une religion qui est une religion de la libération. Religion de la libération, voilà bien une problématique d'aujourd'hui. Je pense encore à ces grèves très nombreuses qui accompagnent l'avènement du Front populaire en France, mais je pense surtout, j'y reviens, à l'agression de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Parce qu'on voit à ce moment-là, entre 1935 et 1941, un élan formidable qui parcourt tout le continent africain et qui, au-delà du continent africain, se répand dans ce que nous appelons les diasporas africaines, en Europe, bien sûr, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, où des individus, des groupes, prétendent mobiliser les soldats et mettre donc sur le terrain les amis de l'Abyssinie. Je pense également à l'Éthiopie parce que c'est à l'occasion de cette agression que des troupes recrutées en Afrique, notamment sous le couvert de l'armée anglaise, vont participer à la libération de l'Éthiopie. C'est donc dans ces années 35-41 la première fois que des Africains, colonisés par ailleurs, continuent de libérer un pays africain d'un autre régime colonial. Beaucoup de gens de ma génération qui sont nés au milieu des années 40 comptent dans leur famille un père, un oncle, des cousins qui ont participé à cette étrange aventure dont ils ont ramené à coup sûr la certitude que les jours de la colonisation étaient bel et bien passés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conclure provisoirement de tout ceci ? Il y a au moins trois conclusions. La première est que dans beaucoup de pays africains, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vu la colonisation s'installer dans son fauteuil, donc ces hommes et ces femmes qui sont nés entre 1895 et 1914-1920, beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui ont vu la colonisation s'installer en Afrique sont également ceux qui étaient là pour voir les colonisateurs plier bagages. Ça, c'est une particularité, je crois, qui donne à la colonisation de l'Afrique une singularité indiscutable par rapport aux autres colonisations, celle du Nouveau Monde ou celle de l'Asie. La deuxième conclusion, c'est que l'image de roi de la brousse que des administrateurs se sont généreusement octroyés, cette image est évidemment beaucoup trop flatteuse. Ces administrateurs, je me les représenterais volontiers comme des gens tiraillés entre des sentiments extrêmes. Il y a d'un côté, certainement, le triomphalisme et la bonne conscience de vainqueurs assurés d'eux-mêmes, qui sont convaincus et qui disent avoir tout de leur côté, le pouvoir politique, le pouvoir administratif, la technicité et aussi la légitimité, le bon droit. Mais de l'autre côté, il y a toujours eu et il y aura pendant longtemps la peur de ces gens qui savent ou qui se doutent que le milieu dans lequel ils opèrent est un décor. Ça n'est qu'un décor, que les gens à qui ils ont affaire joue peut-être un rôle, et que la révolte est là, tapie quelque part, prête à surgir, le plus souvent, là où on ne l'attend pas. prêtes à surgir de tels villages que l'on croyait pacifiés et qui brusquement refusent de payer l'impôt. Prêtes à surgir de tels chefs qui semblaient soumis et qui étaient notre ami et qui brusquement prend ses bagages pour passer la frontière dans le territoire de l'autre régime colonial. De tels fonctionnaires qui étaient tout à fait, comme on disait à l'époque, évolués, assimilés, européanisés, d'autres disent aliénés, qui brusquement devient le meneur d'un mouvement indépendantiste. Cette peur dont on parle trop peu et qui est, je pense, l'autre versant de la terreur coloniale, cette peur, on la voit très très bien au début de la colonisation et à la fin de la colonisation. À la fin de la colonisation, j'ai dit tout à l'heure, en paraphrasant Pierre Eichbans, beaucoup de gens étaient persuadés, allaient savoir pourquoi. C'est peut-être dans le regard des Africains que les jours du colonialisme étaient révolus. Au début, vous savez, entre autres choses, certainement que la peur, elle est là. Je pense en particulier à cet échange de propos entre Kayertz et Carlier, les deux héros minables que Joseph Conrad nous présente dans An Outpost of Progress, un avant-poste du progrès, la deuxième nouvelle congolaise de Conrad, qui nous montre donc deux pauvres types venus là un tout petit peu par hasard parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs et qui au moins en regardant vivre les Africains autour d'eux ont cette phrase extraordinaire: de ce pays, de ce foutu pays, on ne sortira jamais sinon les pieds devant. Enfin, troisième conclusion, c'est que ce temps en effet est un temps court et la question se pose alors: qu'est-ce que la colonisation a bien pu faire dans ce temps ainsi découpé? Et comment d'ailleurs l'a-t-elle fait? Les différences entre ces trois moments, le moment de la peur, des pacifications et des révoltes, l'ère coloniale proprement dite, et le moment que l'on appelle la marche de l'indépendance, les trois moments ont-elles produit des effets sur le projet colonial et sur les modalités de sa mise en œuvre? Dans ce que la colonisation a fait en Afrique, je ne vais pas distinguer, parce qu'on n'en a pas le temps, et c'est plus clair pour mon propos, je ne vais pas distinguer entre ce qui relevait effectivement du projet colonial et ce qui s'est produit sur le terrain, parfois à son corps défendant, pendant que la colonisation était en place. L'une des questions importantes est la question de la rupture. La colonisation s'est justifiée en effet par l'idée qu'elle constituerait une rupture dans l'histoire de l'Afrique. Rupture naturellement positive et rupture fondatrice de modernité. Alors, rupture ou pas rupture? Je dirais oui si nous regardons un certain nombre de faits, un certain nombre de dynamiques qui ont vu le jour à ce moment-là et qui d'ailleurs constituent aujourd'hui des contraintes dont l'Afrique a hérité de cette époque, contrainte qui souvent, je dirais, ralentit ou oriente dans un sens particulier sa marche vers l'avant. Puisqu'on les connaît, je n'insisterai pas trop. Le bornage des territoires et donc cette problématique des frontières. La constitution de nouvelles dynamiques spatiales qui fait en particulier que ce sur quoi nous vivons aujourd'hui, c'est une Afrique entre guillemets subsaharienne coupée de l'Afrique méditerranéenne, phénomène qui est un phénomène nouveau. C'est aussi cette Afrique occidentale ou centrale coupée de l'autre Afrique, l'Afrique orientale, phénomène nouveau que d'ailleurs la crise dite des Grands Lacs est en train de remettre en cause. Il y a aussi, je dirais, l'imposition autoritaire et durable du mode de production capitaliste. Donc, de ces trois points de vue, oui, il y a une rupture. Mais sur d'autres questions, je serais beaucoup plus réservé. Par exemple, quel changement social la colonisation a-t-elle introduit dans le continent africain? Nous sommes nombreux à reconnaître que, après la colonisation, peut-être pendant la colonisation, le statut d'un certain nombre de cadets sociaux s'est trouvé transformé, probablement amélioré. Les esclaves, les femmes, les groupes, certains groupes ethniques considérés comme mineurs. Mais je ne suis pas si convaincu que l'on doive attribuer ces changements à la seule colonisation. Je ne pense pas d'ailleurs que dans tous les cas, ces changements commencent avec la colonisation. Les exemples nombreux que nous avons des pays du Golfe de Guinée, notamment du Nigeria, des pays tels que l'Angola, de pays tels que le Mozambique, nous montrent très bien que, bien avant que commence la colonisation, à partir des années 1830, lorsque l'Europe enfin découvre le caractère malfaisant de la traite des esclaves et veut faire quelque chose de nouveau, nous découvrons en effet qu'il y a dans beaucoup d'endroits des esclaves qui deviennent des entrepreneurs, des femmes qui deviennent des entrepreneurs, des groupes mineurs qui prennent leur bagage pour aller ailleurs. Donc, OK, la colonisation peut-être accélère ce processus, peut-être simplement accompagne ce processus, mais il n'est pas certain qu'elle le crée. Ce que je dirais en revanche, je suis assez d'accord pour reconnaître à son crédit que sous la colonisation, les possibilités de mobilité sociale se sont certainement étendues et les voies de la mobilité sociale se sont élargies. Et puis, sur un certain nombre d'autres points, on pourrait faire les mêmes réserves, notamment sur la question des mutations culturelles, des changements des mentalités, des évolutions religieuses, où il apparaîtrait que, ici, c'est probablement la dynamique propre des sociétés africaines qui, très souvent, prend à son compte, se réapproprie un certain nombre de choses qu'il utilise à sa manière. Les colonisateurs, d'ailleurs, ont été très souvent troublés par cette situation où les sociétés africaines ou des individus d'Afrique reprennent à leur compte, en faisant un usage propre, un certain nombre de faits, un certain nombre de traits qui leur étaient donnés, en quelque sorte, prêts à consommer. Voyez, par exemple, ceux qu'on appelait les évolués. Quel mot, pas les évolués. Ou encore les assimilés. Ceux que des gens de notre temps ont voulu appeler les aliénés. Eh bien, je prends ça puisque c'est là aujourd'hui. Lorsque vous regardez un personnage comme Patrice Lumumba, sur lequel Raoul Peck vient de nous donner un portrait qui est tout à fait saisissant, on se rend compte que cet homme-là, à qui l'on prêtait, selon la formule fameuse, une peau noire et un masque blanc, ben cet homme-là n'avait certainement pas le masque blanc, il avait certainement la peau noire. Comment expliquer autrement que celui qui, au milieu des années 50, fait l'éloge de la colonisation, mais de la colonisation des années 50, une colonisation qui est en train de reculer, qui est en train de multiplier les concessions, comment comprendre que celui qui fait cet éloge-là de la colonisation soit le même qui, moins de 5 ans plus tard, dit « la colonisation, il y en a marre, c'est terminé ». C'est que, en effet, il y avait dans ces gens-là cette idée de décor et du jeu qui n'est pas un jeu limpide et transparent pour la colonisateur, c'est que ces gens-là participaient en effet d'une sorte de bricolage qui leur permettait de jouer au mieux avec la colonisation. Sur le projet proprement colonial, je dirais qu'à ce projet, je donnerais trois piliers. L'idée d'ouverture de l'Afrique, l'idée de civilisation et l'idée de modernisation. L'ouverture. C'est vers l'âge de 12 ans que le collégien que j'étais et le latiniste apprenti que j'étais a commencé à comprendre non pas ce que les colonisateurs étaient venus chercher en Afrique. On savait, on le disait entre nous, tous ces discours, c'est des discours, ils sont venus chercher de l'argent. Donc j'ai commencé à comprendre non pas ce qu'ils étaient venus chercher en Afrique, mais comment ils pouvaient justifier le fait de venir chez des gens, chez les autres, et de leur imposer un certain nombre de manières de faire. À Kinshasa, Léopoldville à l'époque, mon collège était à côté de la grande gare de Kinshasa. Les gares font partie de ces monuments à la gloire de la technicité coloniale. Et devant cette gare, la statue équestre de Léopold II. Et il était écrit sur la gare, ce qui était la devise de Léopold II et la devise, je pense, de toutes les colonisations. Jules Ferry ne l'aurait pas rejeté, ni Salisbury, ni Norton de Matos, ni Bismarck. Aperire terram gentibus. C'est bien ça. Aperire terram gentibus. Ouvrir donc. Ouvrir la terre. Puisque dans cette perception, l'Afrique, ce ne sont pas des sociétés, c'est la terre. Une terre qui, d'ailleurs, pour les colonialistes, n'appartient à personne. Ouvrir la terre aux gentibus, aux nations, c'est-à-dire, justement, à ces États constitués et civilisés. Et le problème, pour moi, aujourd'hui, est quand même de poser la question, comment faire pour ouvrir un continent et ouvrir des sociétés qui étaient déjà ouvertes. Le 19e siècle antérieur à la colonisation me semble en effet être l'une des périodes, probablement la période, où l'Afrique a résolu de manière largement satisfaisante la question de son ouverture, la question de sa double ouverture, l'ouverture à elle-même, soutenue par ses nombreux mouvements de migration de population, ces réseaux extrêmement denses, extrêmement complexes, auxquels d'ailleurs aucune partie du continent n'échappe, ces réseaux qui permettent la circulation des hommes, la circulation des marchandises, la circulation des idées. Mais l'Afrique a réussi aussi, à cette même époque, son ouverture aux autres, car il est clair aujourd'hui que, avant les années 1880-90, l'Afrique participe à la plupart, j'allais dire à toutes les économies monde de ce temps-là, à celle de la Méditerranée, à celle de l'océan Indien et bien sûr à celle de l'Atlantique. À travers cette participation, elle est partie prenante des échanges, échanges de marchandises bien sûr, échanges d'hommes et aussi échanges des idées. Voyez par exemple du côté de l'océan Indien, l'Afrique est en connexion, en échange. À certains moments, elle bat au rythme d'un certain nombre de pays, la Perse, l'Arabie, l'Inde, pays dont le mariage ou le concubinage avec l'Afrique va produire cette culture qui est aujourd'hui l'une des cultures dynamiques du continent africain, la culture swahili. Mais je dirais aussi du côté de l'océan Indien, et ceci n'est pas suffisamment connu, au-delà de l'océan Indien, en allant toujours beaucoup plus à l'est, le Japon. Non pas le Japon victorieux de la Russie, mais le Japon des commencements du Meiji. Ce Japon que l'Éthiopie de Ménélik II, Madagascar des fameuses reines mernes, ce Japon que ces deux îles, la grande île malgache et l'île terrestre que constitue l'Abyssinie, étaient en train de regarder comme un modèle et un exemple à suivre. Si vous regardez du côté de la Méditerranée, c'est certain que tout au long du Sahel, on constate un grand nombre de ports, d'emporiums, qui sont extrêmement nombreux et qui jouent un rôle central dans le commerce avec les pays méditerranéens et au-delà de la Méditerranée. Et du côté de l'Amérique, alors c'est assez fantastique, la traite, bien sûr, est en train de se terminer et commence un autre mouvement, un mouvement de retour. Retour de l'Amérique du Nord, bon gré ou plutôt mal gré. Retour des Caraïbes, plutôt bon gré. Retour du Brésil. Retour donc d'hommes et des femmes qui amènent avec eux d'autres manières de voir, des idéologies de l'émancipation qui vont évidemment féconder les sociétés africaines. Je dirais donc que l'ambition de l'ouverture que la colonisation porte avec elle sur le terrain, elle se transforme en une pratique de rétrécissement des horizons, en une pratique de réduction des horizons. Les trois façades sur lesquelles l'Afrique s'ouvrait au monde extérieur vont se ramener, vont être ramenées brutalement à une seule façade, la façade atlantique et les relations exclusives avec l'Europe. On comprend alors pourquoi, pour beaucoup d'Africains, la voie de l'émancipation passe par le détour obligé vers d'autres pays que l'Europe. Elle passe, bien sûr, par le détour vers le Nouveau Monde, vers le Brésil, vers les Caraïbes, vers les États-Unis. Et ça n'est pas tout à fait par hasard que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Nnamdi Azikiwe et de Kwame Nkrumah, qui sont deux des meilleurs exemples de ces jeunes gens qui ont tenté l'aventure du Nouveau Monde, qui en Amérique ont certes fait l'expérience de la ségrégation et du racisme, mais qui ont vu là aussi comment des hommes et des femmes se sont organisés, d'abord pour mettre un terme à la colonisation anglaise, et d'autre part pour fonder sur des bases solides le régime démocratique. La civilisation est un concept qui se met en place et se construit bien avant la colonisation. C'est au début du XIXe siècle qu'apparaît cette idée de civilisation de l'Afrique par le commerce et par le christianisme. Il s'agissait bien sûr du commerce des produits de la terre et des produits du sous-sol. Mais là encore, comment faire ? Comment faire dès lors que les Africains eux-mêmes avaient déjà commencé ? Dès lors que les Africains s'étaient eux-mêmes déjà engagés volontairement dans le commerce des produits de la terre et des produits du sous-sol ? Le commerce de l'ivoire, le commerce de l'arachide, le commerce de l'huile de palme et d'autres commerces du même ordre sont bien antérieurs à l'imposition du régime colonial. Comment faire ? Ben, on va faire en déclarant d'abord que, on va faire en commençant d'abord par nier les faits et par dire que les Africains étaient repliés sur leur domaine de subsistance. On va faire aussi, bien sûr, par une série d'expropriations massives qui vont, par le biais d'expropriations de la terre et d'expropriations du sous-sol, contraindre les Africains à entrer dans une situation marginale, dans une situation qu'ils ne maîtrisaient pas, dans cette nouvelle économie internationale. La fin du XIXe siècle, donc ce premier temps de la colonisation, a été, vous le savez, une véritable curée. L'esclavage est toujours là. Et ce sont les colonisateurs eux-mêmes qui y participent. Les Portugais, par exemple, étant les champions dans ce domaine, puisqu'ils vont acheter des esclaves sur la côte angolaise pour les contraindre à travailler dans les plantations de Saint-Thomé et Principe. Le travail forcé est là, autre variante de l'esclavage, qui va subsister au moins jusqu'en 1946, parfois même jusqu'à l'indépendance. Les expropriations foncières qui prolétarisent ici et là des communautés entières, au Kenya, bien sûr, dans les deux Rhodésies, en Afrique du Sud et ailleurs. Tout cela est fait au nom de la civilisation. Avec d'ailleurs une dose d'aveuglement, d'inconscience ou d'hypocrisie, qui sait, qui fait que jusqu'en 1919, au moment de la conférence de paix à Versailles, les colonisateurs qui posent ces actes en Afrique ont le culot d'accuser l'un des leurs, l'Allemagne, de ne pas être assez civilisée pour avoir des colonies. On sait d'ailleurs que, pour autant que l'anticolonialisme persiste, c'est au nom de la civilisation que les colonisateurs vont être critiqués. Edmund Morrell ou Charles Péguy, à la fin du XIXe au début du XXe siècle, vont monter au créneau contre les crimes du roi Léopold II au Congo et contre aussi les crimes des compagnies concessionnaires françaises dans le bassin du Congo. La SDN, lieu pourtant de convivialité diplomatique entre les grandes puissances, la SDN à son tour va mettre le doigt sur la même question et interpeller les grandes puissances sur la parenté troublante entre le travail forcé et l'esclavage qu'on voulait détruire. Gide, bien sûr, est dans cette ronde et probablement le plus brillant et le plus talentueux dans cette dénonciation, Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme. Du coup, alors, le troisième C, civilisation par le commerce et par le christianisme, le troisième C est présent aussi, puisque, on l'a dit, le missionnaire précède, suit ou accompagne le colon et le militaire. Le troisième C se trouve du coup très très problématique dans les sociétés africaines et explique pourquoi, au moment où la propagande missionnaire se déploie accompagnée de tout cet attirail moderne et politique, pourquoi dans ce contexte tant de communautés africaines s'accrochent à la foi du terroir ? pourquoi aussi tant de communautés africaines restent si fidèles à l'islam, à cet islam qu'on leur avait présenté comme guerrier et comme esclavagiste. Pourquoi enfin, dans de pays si nombreux, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Congo et ailleurs, le christianisme à peine introduit dans ces sociétés est réapproprié, subverti, récupéré par les Africains pour devenir un message de libération. Modernisation, enfin. Cette modernisation, elle s'appuie bien sûr sur la technicité industrielle et capitaliste. Alors on va construire partout des chemins de fer. On peut dire colonisation égale chemin de fer. Mais se souvient-on du prix que les Africains ont payé pour la construction de ces chemins de fer? On a dit, c'est peut-être un excès, mais une exagération qui frappe et qui désigne bien le problème, un mort par travers sur le chemin de fer du Congo-Océan, à la fin des années 20, au début des années 30. Modernisation, ça a été aussi la question de l'État. La colonisation a prétendu, en effet, marquer une rupture en introduisant dans ces sociétés barbares sur le plan politique, ces sociétés qui, disait-elle, ne connaissaient pas l'État, en introduisant de l'État. Bon, nous n'avons pas le temps pour que j'entre dans les détails. Disons que, d'abord, ça ne correspond pas à la réalité des faits que l'historien peut reconstruire, puisque nous savons, au moins depuis William Bosman, milieu du XVIIIe siècle, nous savons, depuis la relation de voyage de cet homme qui était à la fois commerçant, donc négrier, et explorateur, nous savons par lui que les sociétés africaines présentaient une diversité, une complexité beaucoup plus grande, puisque cet homme a eu la finesse de dire que il y a en Afrique non seulement ces tribus sauvages dans lesquelles je n'ai pas été, mais il y a autre chose, et la grande distinction serait la distinction entre les monarchies et les républiques. Voilà des formes d'État. Et nous savons que, bien avant lui, Jean de La Fontaine, qui avait lu les écrits des voyageurs de son temps, expliquait qu'il y avait un autre modèle d'État, le monomotapa, l'Empire. Empire, monarchie, république, voilà trois formes d'État sur lesquels la colonisation va venir ajouter son propre modèle d'État. Un modèle d'État qui, d'ailleurs, me pose à moi un véritable problème. Comment se fait-il que ce soit précisément au moment 1880, 1945 ou 1960, que ce soit précisément au moment où les sociétés européennes constituaient, renforçaient, enrichissaient leur propre démocratie, comment se fait-il que ce soit précisément à ce moment-là que la terreur ait été la règle régulatrice, la règle fondatrice des sociétés politiques qu'ils constituaient à leur périphérie dans les colonies? En fait, s'il faut porter quand même quelque chose au crédit de ce régime, je dirais que c'est seulement à partir de 1945 et peut-être un peu de 1930 que les plans dits de développement et de bien-être vont introduire en effet un mélange de rationalité et de technicité dans les sociétés africaines. Je vois avec horreur que j'ai... Bon, je vais dire rapidement le reste. Lorsque nous avons réfléchi au temps propre de la colonisation, nous avons vu déjà la présence de ces actes individuels, collectifs, de résistance. La décolonisation, bien sûr, est l'antonyme parfait de colonisation, mais si on voulait ajouter à la perfection, il faudrait procéder un peu, ce que les historiens n'aiment pas trop faire, il faudrait procéder un peu par anachronisme et rendre ce concept en quelque sorte contemporain de la colonisation. Et je dirais, non pas parallèle à la colonisation, car nous savons que les parallèles ne se rencontrent pas, mais contemporain de la colonisation, agissant sans cesse sur la colonisation et contribuant à façonner les visages successifs de celle-ci. Donc, si la colonisation s'est transformée au cours de ces décennies, ce n'est pas tant seulement par la volonté des colonisateurs que par la pression exercée sur elle par ces mouvements divers qui vont conduire à la décolonisation. Alors, ce que je voudrais dire en un mot, c'est que ce mouvement émancipateur, il faut se le représenter en termes de pluralité d'échelle. puisqu'il se produit à la fois à l'échelle de tout le continent, il se produit aussi à l'échelle de ces unités, de ces petites unités que nous dénommons ethnies, tribus, peuples, peu importe. Il se produit aussi à l'intérieur de ces frontières qui ont été bornées par la colonisation et dont beaucoup de gens continuent de dire, à tort probablement, que ce sont des coquilles vides. Trois échelles pour le mouvement émancipateur. J'ajouterais que ce qui est également intéressant, c'est que à ces trois échelles, nous constatons une concomitance de l'action. Ce n'est pas que ça commence à l'échelle micro pour passer à l'échelle macro, mais tout ça se passe en même temps. Et nous constatons aussi qu'il y a une amplification d'efficacité à mesure qu'une échelle agit sur l'autre. Si nous admettons cela, sous réserve d'explicitation ultérieure, si nous admettons cela, cela nous conduit à une série de conséquences, dont deux au moins me semblent importantes. La première, c'est que cela nous conduit à inscrire l'indocilité. J'aime beaucoup ce concept de Achille Mbembe. L'indocilité, l'indiscipline, l'insoumission, le refus de la captivité comme une caractéristique majeure des sociétés africaines sous la colonisation. L'autre conséquence que je crois on doit en tirer, c'est que c'est une conséquence d'ordre heuristique. C'est que le séquençage aujourd'hui classique qui a été introduit dans les mouvements de résistance africaine au début des années 60 et que nous devons à Terence Ranger, distinguant résistance primaire, résistance secondaire, nationalisme moderne, ce séquençage, me semble-t-il, n'est peut-être pas aussi évident que cela. Parce que comment dire, je trouve que d'une certaine manière c'est une lecture bien sûr a posteriori, l'histoire est une lecture a posteriori du passé, mais c'est une lecture a posteriori qui fait la part je dirais trop belle au mouvement politique moderne et au père de la nation, considéré dans cette perspective comme l'aboutissement nécessaire et presque fatal du processus émancipateur. Je saute pour arriver à la conclusion de ce point sur la décolonisation. Si on voit donc ces différentes échelles, si on les regarde bien, cela veut dire que la colonisation ne relève pas d'une histoire unique. Elle ne relève pas d'une histoire unique, surtout si, comme on le fait souvent, on pense que cette histoire unique est l'histoire des pays colonisateurs qui se sont décidés à un moment donné d'accorder l'indépendance à leur territoire. Nous savons en effet que, en 1945, aucun pays européen n'a un agenda pour la décolonisation. Aucun. Et cela, malgré l'expérience que la plupart d'entre eux avaient du processus de la décolonisation, malgré la connaissance qu'ils avaient tous de ce que, pour paraphraser Jean-Baptiste Durosel, tout empire périra. La Grande-Bretagne a fait l'expérience des États-Unis, la France a fait l'expérience d'Haïti, l'Espagne et le Portugal, l'expérience de la décolonisation de leur empire américain. Donc, ça n'est pas une histoire exclusive, ça n'est pas l'histoire unique des puissances colonisatrices. Et c'est encore moins l'histoire unique d'un certain nombre de héros. On pense ici à Charles de Gaulle. On pense là au roi Baudouin de Belgique et à quelques autres qui auraient, par une espèce de flair inexplicable, décidé brusquement d'accorder la décolonisation parce que c'était le meilleur choix. Cette histoire de la décolonisation, à mon avis, n'est pas non plus une histoire extérieure à l'Afrique. Ce n'est pas l'affaire de l'ONU. Ça n'est peut-être pas non plus l'affaire de la guerre froide et de la rivalité entre les deux puissances idéocratiques, États-Unis et URSS, qui vont plaider la carte du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une histoire multiple, certes, mais une histoire dans laquelle, me semble-t-il, la part des Africains est tout à fait décisive. Et de ce point de vue, je dirais aussi que la querelle qui nous a opposés entre nous autrefois, la querelle entre les indépendances octroyées par le colonisateur et les indépendances conquises par les colonisés, cette querelle est probablement malvenue. Parce que là où il y a octroi, il y a eu lutte. Et là où il y a conquête, il y a eu également octroi. C'est Kwame Nkrumah qui, au milieu des années 50, discutant avec Arden Clark, qui était le dernier gouverneur britannique dans le territoire, lorsque Arden Clark lui dit « Monsieur le Premier ministre, voilà, c'est décidé, vous aurez l'indépendance en 1957, je vous félicite parce que vous avez conquis la liberté de haute lutte. » Et Kwame Nkrumah lui répond « Kwame Nkrumah ?» Le radical lui répond « Sir Arden Clark, je ne l'ai pas conquise tout seul, nous l'avons conquise à deux. » Donc, laissons cette querelle qui correspond peut-être à des querelles très chargées d'idéologie dans les années 60. Pour conclure, qu'est-ce que finalement le postcolonialisme ? Est-ce que c'est une période ? Est-ce que c'est une ère ? Que nous caractériserions donc comme l'ère qui vient après la colonisation. Elle vient après, mais elle comporterait un certain nombre de caractéristiques qui lui viennent de la colonisation. Est-ce que c'est une période simplement ? Période qui, par conséquent, pourrait avoir un terme. Quand et comment arriver à ce terme ? Est-ce au contraire un système ? Est-ce un régime avec ses caractéristiques propres qui ne correspond pas exclusivement au temps de la pré-colonisation? Je dirais que l'unité de la période postcoloniale, me semble-t-il, est une unité qui est loin d'être acquise. On peut y introduire en effet au moins deux coupures. L'une se situerait, bien sûr, passage obligé pour tout le monde, au début ou à la fin des Trente Glorieuses et au début de cette espèce de dépression et de redistribution des cartes à l'échelle du monde, dans laquelle, bien sûr, l'Afrique héritière des pesanteurs et des contraintes de la colonisation est en situation de fragilité. L'autre coupure, qui serait plutôt la coupure des années 1990, liée peut-être, dit-on, à la guerre froide, mais liée peut-être aussi à cette lutte des sociétés africaines dont Nelson Mandela est sans doute l'un des exemples les plus parlants. Donc, l'unité de la période n'est pas assurée. Mais on peut dire qu'il y a quand même certaines choses qui nous permettent d'évoquer la particularité de cette période. Sans doute, la première chose, c'est, j'hésite entre le meilleur mot, la continuité ou peut-être la continuation de ce qui s'est fait pendant la colonisation. Vous voyez que quand on dit continuation, il y a une charge accusatrice et peut-être une vision, un jugement de valeur qui est attaché à ce mot, qui fait que le néocolonialisme s'est installé dans beaucoup de pays africains, la modernisation autoritaire, dont l'État colonial a été le champion, a été reprise à son compte par les États africains, avec d'ailleurs la même importance, la même visibilité accordée à cette technicité mal maîtrisée et qui va nous donner ces nombreux éléphants blancs dont les pays africains sont parsemés. Et puis, continuité ou continuation, les formes d'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Une Afrique marginale, une Afrique parent pauvre, une Afrique qui se voit assigner aujourd'hui comme hier le même rôle de producteur de matières premières. Mais il y a aussi bien sûr des ruptures. Ces ruptures, ce ne sont pas seulement des ruptures avec le passé colonial, ce sont des ruptures qui, se situant par rapport au passé colonial, essaye de récupérer un certain nombre de choses réelles ou reconstruites du passé africain. Je dirais, je les énumérerai seulement pour ne pas trop m'apesantir dessus, la construction nationale, l'intégration nationale et bien sûr l'affirmation et la construction de l'identité africaine. Et finalement, je dirais que en marchant un peu sur les plates-bandes où Pierre Kipré m'a précédé, peut-être que depuis les années 80 ou les années 90, il se passe quelque chose d'autre. Naturellement, nous jugeons à froid, nous faisons de l'histoire immédiate et c'est très difficile de trancher. Mais on voit bien depuis les années 90 ou les années 80 qu'il y a sur la scène africaine un certain nombre de nouveaux acteurs qui n'étaient pas là auparavant, qui ne sont pas les États auxquels nous sommes habitués, mais qui sont des organismes internationaux, en quelque sorte anonymes, et aussi des organisations et des associations, notamment des associations humanitaires. Et je dirais aussi que dans ce contexte nouveau, il apparaît difficile, sinon impossible, de réaliser un certain nombre de rêves qui avaient été les rêves de l'Afrique coloniale et indépendante. Le rêve de la modernisation, le rêve de l'industrialisation, le rêve du panafricanisme. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette Afrique qui a fait sien le discours de la Renaissance africaine, discours que tout le monde aujourd'hui porte, les politiques, les artistes, les musiciens, les intellectuels, discours qui paraît très nouveau, mais qui est en fait un discours ancien. C'est un discours qui balaie presque 2 siècles de l'histoire du continent africain. C'est un discours donc qui a cette particularité intéressante pour nous, et je conclurai là à mi-chemin entre les 2 siècles, discours qui a la particularité de nous forcer à aller de l'avant et en même temps d'appeler notre attention sur la nécessité de récupérer le passé. Récupérer le passé, ce qui veut dire procéder à une double évaluation et du passé colonial et bien sûr du passé antérieur à la colonisation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
Bonsoir, monsieur. Vous avez donc situé la fin de la colonisation dans les années 45-46, avec donc l'indépendance donnée dans les années 60 à un certain nombre de pays africains. Vous êtes remonté jusqu'au 11 février 1990 pour l'Afrique du Sud, c'est une chose. N'avez-vous pas l'impression que malgré tout cela, on vit encore une sorte de colonisation soft de l'Afrique actuellement, enfin, quoique soft n'est pas le bon mot, notamment avec de la part des plus puissances colonisatrices, et de la France en particulier, en imposant un certain nombre de chefs d'État aux pays africains qu'elle a autrefois colonisés, voir les États-Unis quand la France s'absente du territoire en question, voir des multinationales qui s'implantent et qui débordent largement le politique, n'avez-vous pas l'impression que c'est une sorte de colonisation qui dure ?
Allez-y.
Oui. Comment dire ? Ça n'est pas vraiment de la colonisation. Hein. Je dirais que les dirigeants africains des années 60, appartenant d'ailleurs à tous les bords, Julius Nyerere, donc le socialiste humaniste, Léopold Senghor, Kwame Nkrumah, le radical, et d'autres, tous ont mis le doigt sur cette chose qu'ils ont appelée le néocolonialisme. Donc il y a une conscience très, très claire de la part de ces acteurs qu'une fois la colonisation dans sa forme juridique terminée, continuait quelque chose d'autre que, faute de mieux, ils appelaient néocolonialisme. Alors, ce quelque chose d'autre, c'est d'abord, en effet, l'interventionnisme maintenu d'un certain nombre de grandes puissances. Mais vous remarquerez que toutes les grandes puissances, autrefois colonisatrices, ne sont pas aussi interventionnistes. Donc il y a un certain nombre de nuances à faire, et je crois que c'est assez clair que la France des années 60 jusque, alors certains diront jusqu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut peut-être arrêter cette chronologie un tout petit peu plus tôt qu'aujourd'hui, a eu en effet une politique d'intervention militaire, culturelle ou de présence qui fait d'elle, je dirais, une puissance néocolonialiste plus franchement que l'Angleterre ou la Belgique ou même le Portugal. Cela dit, je suis, assez réservé sur la problématique des chefs africains imposés par les colonisateurs. Il y a des cas, certes, où nous savons que des manœuvres juridiques ont été mises sur pied pour permettre à telle personne d'arriver au pouvoir plutôt que telle autre. Nous savons aussi que, hélas, à d'autres moments et dans un certain nombre de pays, c'est par de véritables massacres que l'on a éliminé des gens qui étaient gêneurs pour laisser en quelque sorte la place vide et pour que celle-ci soit prise par des gens plus intéressants. Hein, ces cas-là, nous les connaissons bien, que ce soit au Cameroun contre l'UPC, que ce soit en Centrafrique contre l'abbé Barthélémy Boganda et bien sûr au Congo contre le mouvement national congolais de Patrice Lumumba. Mais cela dit, dans beaucoup de cas, comment dire, la conquête du pouvoir qui conduit à la naissance de l'État souverain est bien l'œuvre de forces politiques qui se battent pour conquérir le pouvoir. Et je pense donc qu'il faut reconnaître à ces chefs d'État, à tous ceux d'entre eux, peut-être à certains d'entre eux, une marge d'autonomie, je dirais, relativement grande. On voit d'ailleurs aujourd'hui qu'un certain nombre de scénarios montés en haut lieu pour permettre à tel plutôt que tel autre de venir au pouvoir sont sur le terrain démentis par l'habileté de ces chefs d'État. Vous savez qu'on attribue à El Hadj Omar Bongo cette plaisanterie piquante lorsqu'il dit que le Gabon sans la France, c'est comme du pétrole sans bagnole, et que la France sans le Gabon, c'est une bagnole sans pétrole. Donc c'est un peu quelque chose comme « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », et nous cheminons ensemble plutôt en partageant des choses qu'en laissant un autre imposer ses points de vue à son voisin. Je me demande même si un jour, il ne faudra pas que les historiens et les historiens de l'Afrique en particulier s'interrogent sur une histoire dont la flèche n'irait pas de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi de l'Afrique vers l'Europe. C'est-à-dire dans quelle mesure les actions menées pendant la colonisation et les actions menées après la colonisation, y compris la compromission d'individus et de réseaux plus ou moins mafieux dans les affaires du continent africain, jusqu'à quel point ces pratiques n'ont pas un effet en retour sur les sociétés françaises elles-mêmes. Dans ce cas-là, nous verrions que les choses ne sont pas unilatérales et que l'interface agit évidemment dans les deux sens. La présence des multinationales, je crois, nous introduit dans une situation qu'on peut qualifier de néocoloniale, sauf que si on voulait jouer dans une histoire en longue durée, on verrait que cette situation-là, donc de banquiers, de sociétés anonymes, de compagnies industrielles qui s'accaparent d'un pays, lui prennent sa souveraineté, gèrent ce pays à leur guise, est peut-être non pas une situation post-coloniale, mais une situation proto-coloniale. Elle a été celle du Maroc jusqu'en 1912, elle a été celle de l'Empire ottoman, avant que les grandes puissances le coupent en morceaux, elle a été aussi celle de la Chine, avant que les communistes et les nationalistes ne décident de prendre les choses à bras-le-corps. Donc on pourrait peut-être, c'est peut-être un jeu, dire que l'Afrique décolonisée se trouve dans certaines de ses parties en situation proto-coloniale et de recolonisation, et que si elle ne prend pas garde à cela, si elle ne s'organise pas par rapport à cela, elle pourrait en effet se trouver de nouveau colonisée, mais probablement sous des formes nouvelles. Mais vous savez, je finirai là-dessus, que les Africains ne sont pas inertes, et les sociétés africaines ne sont pas inertes. On voit bien aujourd'hui que, quelle que soit la différence des régimes, il y a dans une grande partie de l'Afrique, sinon dans la totalité du continent africain, des actions de toutes sortes pour éviter ce sort-là. Ces actions viennent bien sûr de diplomates, et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons dire en 2000 qu'il existe une diplomatie africaine avec ses règles, avec ses ténors, avec ses méthodes, qui réussit quelquefois, qui ne réussit pas d'autres fois, mais la diplomatie n'est pas faite pour réussir partout. Mais nous avons aussi, bien sûr, dans les sociétés africaines, des mouvements extrêmement importants. Vous parliez de multinationales. Voyez comment, au Nigeria, des communautés ethniques, disons pour faire vite, liées d'ailleurs à des intermédiaires culturels modernes, luttent avec une certaine efficacité contre l'action de ces grandes compagnies. Le MOSOP, le mouvement pour la survie du peuple Ogoni, a certes perdu Ken Saro Wiwa dans sa lutte, mais c'est un mouvement qui est en train d'imposer un certain nombre de choses, c'est-à-dire de faire reconnaître le pillage que les compagnies pétrolières effectuent au Nigeria et d'imposer à l'État nigérian, tant qu'on est dans l'économie de rente, une redistribution plus équilibrée de cette rente et de demander à ces compagnies pétrolières de faire en sorte que les destructions graves apportées à l'écologie et aux ressources naturelles de ce pays, eh bien, soient un jour ou l'autre compensées. Donc nous sommes dans cette situation-là qui, je crois, est une situation très complexe, en effet, où les anciennes puissances coloniales n'ont pas perdu le désir de revenir et les Africains, eux, n'ont pas le désir de les voir revenir. Donc une situation de combat, disons, qui est, je pense, très intéressante pour ceux qui veulent l'analyser.
Encore deux toutes petites questions rapides, monsieur.
Oui.
Levez-vous.
Est-ce que vous voyez dans l'OUA quelque chose qui est porteur d'avenir, ou est-ce que vous voyez une autre forme d'union entre les États plus porteuse d'avenir? Et dans ce cadre-là, est-ce que vous voyez des frontières s'estomper, comme par exemple entre le Bénin et le Togo?
L'OUA et comment dire, c'est l'enfant handicapé d'un très grand amour. Parce que l'unité africaine, c'est une chose tout à fait extraordinaire. Ce désir d'unité, cette volonté d'unité, très clairement, a été exprimé avec force et clarté une première fois dès le mois de juillet 1900. J'ai fait la comparaison parce qu'on la fait toujours, c'est-à-dire avant que l'idée d'Europe ne s'impose comme une idée qui va de soi. Et donc, ce mouvement, donc le coup de foudre, hein, il est déclaré en 1900. Mais bien sûr, comme c'est souvent le cas, ça a commencé un tout petit peu avant. Hein. Ça a commencé dans les années, 1850-1860, où des gens vont commencer à dire « l'Afrique est une ». Elle est une par son histoire, elle est une par sa condition d'aujourd'hui, et pour qu'elle se libère, pour qu'elle ne soit pas colonisée, pour qu'elle se développe, elle doit être une. Alors, on a travaillé dessus longtemps, mais vraiment, on a fait des choses très, très intéressantes. Et finalement, de quoi a-t-on accouché? De cette souris qu'est l'OUA. Mais je dirais qu'il vaut mieux que ce mouvement ait accouché de quelque chose plutôt que de rien. Donc, l'OUA, c'est... c'est le choix que nous avons fait de passer par la camaraderie ou l'amitié diplomatique plutôt que par d'autres moyens. L'OUA est une réponse à des contraintes économiques qui ont fait que l'Afrique des années 60 ne pouvait pas faire ce que l'Europe des années 50 a fait, c'est-à-dire construire un marché commun parce que les marchés africains étaient totalement contrôlés de l'extérieur. L'Afrique ne pouvait pas non plus, dans le contexte de la guerre froide, penser à de grands ensembles étatiques à cause de la différence du régime et du jeu difficile, mesquin des grandes puissances. Donc on a pris ce qui restait. On a eu la lucidité de voir que tout n'était pas perdu et qu'il restait aux Africains la voie diplomatique pour régler un certain nombre de leurs problèmes. Et je dirais que beaucoup des problèmes ont été réglés. L'OUA s'était donné comme mission d'obtenir la libération du continent africain de toute trace du colonialisme. Et sur ce point, au moins, on peut dire que tous les pays africains, tous, y compris les régimes que l'on accusait d'être trop proches des Occidentaux, tous les pays africains ont mis de l'argent, ont mis des hommes, ont mis des armes à la disposition de tous ces pays où le colonialisme persistait, et ils ont obtenu que, finalement, ceux qui avaient juré le Portugal, que jamais ils ne quitteront l'Afrique, ils ont quitté l'Afrique. Ceux qui avaient juré, c'est l'Afrique du Sud, que jamais, parce que soi-disant c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, jamais les Noirs et les Blancs seraient ensemble, ils ont été obligés de voir que les Noirs et les Blancs sont des hommes. Ça, c'est une victoire fantastique. Alors, on peut dire aujourd'hui que, pour soulever la montagne, la souris est un peu maigrichonne. D'accord, d'accord. Mais je crois que tout le monde en est conscient. Et alternativement, parallèlement à l'effort de reconstituer cette OUA, ben, on fait des choses ailleurs. On crée la CDAO, on crée la SADEC, on crée un certain nombre de choses. Et je crois que le mouvement, de manière pragmatique, est en train de prendre de l'avance. Les frontières, moi je crois, on est d'accord que toutes les frontières sont artificielles et ont vocation peut-être un jour à s'intégrer dans des ensembles plus importants. Si on voit la révision des frontières de cette manière-là, par le haut, c'est-à-dire par l'intégration dans des ensembles de plus en plus larges et de plus en plus conviviaux, je marche plus volontiers que si l'on songe, comme certains l'ont dit, à une solution par le bas, qui consisterait à saucissonner les États africains pour créer des micro-États. Il n'y a rien qui m'a mis hors de moi, comme je l'ai été il y a 5 ou 6 ans, que d'entendre des diplomates, des intellectuels, des gens informés, expliquer que pour régler ce qui était le problème de ce temps-là, la question rwandaise et la question burundaise, il faudrait créer un État Hutu et un État Tutsi. Des États ethniques, des États fondés soi-disant sur des races, alors que nous sommes tous d'accord aujourd'hui que c'est la citoyenneté qui fonde la société politique moderne.
Une toute dernière question, monsieur, vraiment une question.
On n'a pas eu le temps. Je voulais vous demander, à part les justifications de la colonisation que vous avez données tout à l'heure, aucune ne vaut, puisque vous avez dit vous-même. Hier, Pierre Misa nous expliquait que le fascisme, dont la barbarie, était quasi génétiquement européen, il nous l'a dit hier. Est-ce que la colonisation n'est pas tout simplement cette barbarie instrumentée et exportée sur le continent ? Si on avait le temps, j'allais aussi vous demander.
Non, on n'a plus le temps.
La monnaie,
s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut se développer, être indépendant et se développer sans monnaie, puisque les 14 États. Colonie française, personne ne pense à avoir le moyen d'échange qu'est la monnaie proprement africaine.
Merci.
Bon, c'est vrai qu'il y a des explications que les gens donnent et que nous introduisons dans la logique que nous construisons des événements. Je pense en effet que on peut retenir cette hypothèse ou cette théorie d'après laquelle, en même temps que la démocratie, pour faire vite, se consolidait en Europe, il y avait, à la périphérie ou dans un coin obscur de la société, des consciences, des choses qui, plus tard, allaient donner la barbarie. Vous avez certainement raison de poser ce problème. Je dirais que, pour nous tous, ce problème a reçu un commencement de réponse sur laquelle nous avons peut-être à travailler. C'est Alexis de Tocqueville qui, dans les années 1840 ou quelque chose comme ça, réfléchissant sur la conquête de l'Algérie, conquête qui, vous le savez, a été aussi terrible que les opérations dites de pacification sur le continent africain. Tocqueville posait une question et exprimait une inquiétude. La question, c'était: comment pouvons-nous, nous, États des Lumières, nous, État de droit, régime constitutionnel, comment se fait-il que nous soyons capables de développer à côté de nous et pas si loin de nous des pratiques aussi barbares? Et deuxième chose qu'il exprimait, c'est une sorte d'inquiétude. C'est cette espèce de mouvement de retour de balancier quand il disait « Imaginons que ces armées de conquérants qui en fument les Arabes et les Berbères dans des grottes, imaginons que ces gens-là reviennent chez nous. Qu'est-ce qui va se passer ? » Ben, on dira que ce qui va se passer, c'est que ce terrorisme qui a joué là-bas va jouer ici. Dans les interrogations qu'on se fait, on se demande évidemment sur les cas extrêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quelconque de continuité entre le quasi-génocide que l'Allemagne de Guillaume II a opéré en Namibie contre les Nama et les Herero? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette expérience-là, qui est une expérience terrible, et le nazisme tel qu'il se développe dans l'idéologie d'abord et dans la pratique du pouvoir ensuite? Est-ce qu'il n'y a pas un lien, d'autant plus que lorsque l'on regarde la composition de ces mouvements extrémistes qui vont se regrouper derrière Hitler, on trouve en effet un certain nombre de gens qui ont été les artisans de ce génocide là-bas. C'est en effet un grand problème. Et je crois que plutôt que, comme nous faisons quelquefois, les facs sont comme ça, on a une cours d'histoire de l'Afrique, un cours d'histoire de l'Europe, on coupe trop les choses. Moi, je crois que l'un des grands problèmes auxquels nous avons à faire face, c'est quand même cette interrogation. Comment se fait-il et quelles conséquences cela a eu que des États modernes, industrialisés, démocratiques, aient pu non seulement tolérer à leur périphérie, mais développer à leur périphérie comme un élément central de leur définition des pratiques terroristes et barbares qui relèvent visiblement d'un autre âge. Ce n'est pas une histoire marginale, ce n'est pas une affaire qui se passe là-bas et qui ne nous concerne pas, c'est une affaire qui concerne en effet les gens d'ici et qui est une question, je crois, assez centrale sur laquelle on serait heureux, donc je vais faire de la pêche pour finir, question sur laquelle on serait heureux que de jeunes chercheurs veuillent bien venir nous voir pour proposer dessus des thèses intéressantes.
Elie Kembo, merci.